Bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin à l'écoute du magazine Okapi Action. Ici, Walter Molondu au micro. La diffamation est-elle punie en droit congolais? Oui. Qui peut la commettre? Toute personne peut commettre une diffamation. Mais dans quelles circonstances le procureur ou les juges peut-il juger de la recevabilité d'une plainte pour diffamation? On le saura tout à l'heure avec des invités. Monsieur Kabeya Pindipassi, journaliste, président national de l'Union nationale de la presse au Congo. Monsieur Donambaya, président de l'association Journalistes à Danger. Et maître Dominique Kamwandu, expert pour Association Avocats sans frontières. Nous aurons en ligne, en participation par téléphone, un procureur qui nous dira comment il fait pour juger de la recevabilité ou non d'une plainte pour diffamation. Autre chose à présent, plus loin de Kinshasa, ça sera une hausse démesurée que l'on observe dans la fixation des frais des loyers. C'est à Kindu que ça se passe. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans cette ville, ville capitale de la province du Maniema? Eh bien, on fera le point avec notre confrère Gabriel Wamenya, surtout que la fixation de ce loyer est à l'origine de plusieurs conflits entre bailleurs et locataires. La paix sociale est troublée. Et puis, les usagers de la route, surtout les camionneurs, en font les frais tous les jours. C'est l'état délabré des routes en République démocratique du Congo. En tout cas, en Mbujimayi, il ne fait pas exception. L'OVD, Office des voiries et drainage, entreprend souvent des travaux, mais ces travaux ne résistent pas toujours aux intempéries. Les pluies diluviennes finissent toujours par réduire à l'impuissance tous les efforts initiés par l'OVD. Mais voilà tout pour aujourd'hui.
Okapi, le Congo à l'écoute.
La diffamation est-elle punie en droit congolais? Oui. Qui peut commettre la diffamation? C'est toute personne. S'agissant des journalistes, la loi numéro 96/002 du 22 juin 1996 sur la presse en République démocratique du Congo renvoie, en ce qui concerne les délits de presse, au code pénal. Et la diffamation, selon notre code pénal, c'est le fait d'imputer à quelqu'un des faits précis, vrais ou faux, à même de porter atteinte à l'honorabilité d'une personne. Cette infraction est punie des peines de prison ferme. On aura la précision tout à l'heure avec M. Dominique et nos confrères et voir avec le procureur. En droit français, la diffamation est définie par les articles 29 de la loi de 1881 comme, je cite, « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. Elle est punissable de 12 000 euros d'amende dès l'instant où elle est commise envers les particuliers par notamment tout moyen de communication audiovisuelle. » Article 23 et 32 de la loi de 1881, ça c'est la loi française. Et donc cette loi précise que même si cette diffamation est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, dès lors que l'identification est rendue possible par les termes employés. Mais voilà, tout ça c'est la loi, c'est le droit. Et lorsque des confrères ou toute autre personne est poursuivie pour diffamation, souvent une autorité dit « c'est ce que dit la loi ». On va interpréter cette loi aujourd'hui et on saura dans quel cas on peut même priver la liberté à quelqu'un pour propos diffamatoires. Mais quand est-ce qu'une accusation de diffamation est-elle recevable ou non? On saura avec nos invités, vous savez de qui il s'agit. Mais d'abord, un tour d'horizon avec vous, Nicole Ngaka. Nicole, bonjour.
Bonjour, Walter Bairindi.
Vous avez fait une enquête à ce sujet, vous avez commencé une enquête. Quelles sont vos premières analyses?
Bon, en fait, mon analyse sur la question est que, dans bien des cas, une personne est accusée de diffamation pour un fait qui, par après, est considéré comme étant insignifiant. En fait, là, je serai un peu plus précise parce que, vois-tu, Walter, les accusés ne savent pas très bien pourquoi ils sont inquiétés, du moins ici, en République démocratique du Congo. Je serai encore plus précise sur la question parce que, si je me permets d'affirmer que cela, bien sûr, c'est tout simplement parce que ceux qui ont eu à témoigner là-dessus nous ont dit qu'ils avaient pris toutes les dispositions possibles et que les faits qu'ils rapportaient dans leur journal étaient avec preuve à l'appui. Mmh. Vous comprenez tout de suite que l'on parle des cas des journalistes, Walter.
Mes confrères, donc, mais nous savons qu'il y a des journalistes qui peuvent être accusés de diffamation, n'importe qui peut l'être aussi, hein, même si on n'est pas journaliste. Ça, c'est une façon de mal comprendre les choses. On croit que ne peut être poursuivi de diffamation qu'un journaliste. Première précision, non. Toute personne peut être poursuivie de diffamation si les faits pour lesquels on l'accuse portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps qui est imputé. Nicole, on est bien d'accord là-dessus.
On est bien d'accord, Walter, mais avouons tout de même que dans notre pays, ce sont plus les journalistes qui sont concernés par cette accusation. Nous avons de ce fait pu avoir le témoignage de deux journalistes qui ont été accusés de diffamation et ont été interpellés pour leurs écrits qui portaient atteinte à l'honneur ou à la considération de certaines personnes.
Selon leurs accusateurs.
Tout
selon
à fait.
Le plaignant.
Ah oui, selon le plaignant. Oui. Et là, je parle précisément du cas d'un journaliste nommé Achille Ekele, dont j'aimerais que vous suiviez le témoignage.
Il m'a accusé de diffamation, soi-disant que j'ai diffusé une mauvaise information, une fausse information au sujet d'un homme politique, donc, qui était dans l'opposition. Je vais dire le monsieur Lengankoy. Mais, moi, j'avais toutes mes preuves. Parce qu'il y avait des facsimilés avec la signature de ce ministre-là, il n'était pas encore ministre, avec la signature de cette personnalité-là, et le journal a repris le facsimilé avec autre preuve qui était là, des déclarations des gens qui étaient avec lui dans cette affaire-là, dans ces faits-là. Mais seulement pour avoir compris que c'est un fait qui pouvait avoir, faire une tache d'huile sur sa carrière, sur ses activités politiques, il a juste saisi la justice avec toute l'autorité qu'il avait pour essayer de m'intimider, pour essayer d'intimider la presse, pour essayer de nous baïonner. Tout ça, c'est un arsenal de manœuvres d'intimidation et de tentatives de baïonnement d'un peuple, sous prétexte que le journaliste a été dans la justice. Et finalement, on a compris que c'était une manœuvre d'intimidation. Et un beau matin comme ça, j'ai appris qu'il y avait une note du ministre de la Justice de l'époque, exigeant ma relaxation, comme ça, ça tombe comme ça de nuit, alors je ne comprends pas, alors diffamation pourquoi, l'affaire a été politisée, directement, de passer à la diffamation, à l'affaire politisée, et puis à la relaxation parce qu'il y avait pression, je n'ai plus rien compris dans cette affaire-là, madame.
Voilà, le témoignage de notre confrère Achille Ekele, c'est un cas parmi tant d'autres. Est-ce que, Nicole, il faut généraliser ce problème pour ceux de nos confrères, pour moi, pour vous, pour tous les autres confrères qui ont choisi comme métier de chercher, collecter les informations, les traiter, les diffuser?
Je ne généralise pas, mais il y a tout de même plusieurs cas qui sont similaire. Alors ça fait un peu réfléchir. Un autre cas qui a été accusé de diffamation, là c'est encore un autre confrère journaliste, c'est Denis Lompoto qui est du journal Pili Pili. Nous l'avons aussi interviewé, Walter, et voici ce qu'il a dit à ce sujet.
Nous avons juste relayé une information qui circulait déjà, je ne vais pas citer le nom, c'est bientôt, c'est une année. Il a trouvé bon qu'il utilise la méthode forte. Mais qu'à cela ne tienne, le problème que les journalistes congolais, africains si je peux me le permettre, n'est pas suffisamment protégé. C'est l'autorité établie, des forces, ou comme peut-être démocratiquement aussi ailleurs, qui aime la protection. Et chaque fois quand les journalistes essaient de se le temps pour dénoncer un mal, surtout qu'il est plus vulnérable, on sait facilement à lui boucler la gueule.
Voilà. Et pour avoir été accusé de diffamation, vous avez été condamné?
Non. Voilà, quand moi je parlais, j'ai amené mes preuves, non? Ils m'ont mis sous liberté provisoire, mais traitant même des délinquants primaires, ça c'est vraiment un scandale. S'il y avait aussi des moyens financiers, je pouvais aussi contre-attaquer en justice, parce que moi j'ai pas été condamné. Et on m'a relâché sous liberté provisoire, faut dire que très liberté provisoire. Il savait que je n'avais rien, j'avais pas vraiment grand-chose à me reprocher.
Denis Lompoto du journal satirique Pili Pili. Eh bien, voilà un autre cas et bien d'autres qu'on ne peut pas évoquer ici, on ne peut pas entendre tous les témoignages, mais au moins ça ressort quelque chose qui se passe, que les fractions de diffamation telles qu'elles sont définies dans le code pénal est souvent, très souvent utilisée par ceux qui ont la force publique. On vient de l'attendre, Lobuto et même notre confrère
Achille
Kélé qui disait que c'était des manœuvres pour essayer de museler la presse. Et c'est le cas, en tout cas, ce n'est pas à moi de le dire ou pour l'instant, on va en débattre tout à l'heure avec des hommes de loi, un avocat et deux éminents confrères qui sont à la tête des deux grandes associations bien connues dans notre pays. Pour vous rafraîchir la mémoire, ici qu'aux auditeurs, dernièrement, vous connaissez le feuilleton d'un ancien ministre, il faut le citer, Joseph Olenko, qui a été accusé de diffamation, on en a beaucoup parlé. Nos confrères, les médias qui ont relayé cette information ont vu, en tout cas, quelques médias fermés, ça a été rouvert, heureusement, fort heureusement, mais c'est autant de choses, les faits existent, hein, ça fait déjà précédent. Alors, propos qui est-on à temps précisé diffamatoire dans la bouche de M. Olenko vis-à-vis du président de la République, ce qui veut dire qu'il n'y a pas que les journalistes qui peuvent être accusés ou impliqués dans ce type d'accusation. C'est déjà une preuve qu'on disait que tout le monde peut être imputé ou accusé pour diffamation.
Affirmatif, tout le monde peut un jour ou l'autre être concerné par ce type d'accusation, Walter. C'est pourquoi il faut toujours, toujours faire attention aux propos que l'on tient vis-à-vis des autres. On ne peut pas accuser quelqu'un comme cela sans preuve. À la question de savoir si cette infraction est surtout imputable aux journalistes, j'ai posé la question à Mme Mujinga, qui est la présidente de l'Association des femmes magistrats ici en RDC, et voici ce qu'elle a répondu.
Non, ce n'est pas une infraction qui est imputable seulement aux journalistes. Hein. C'est une infraction qui est imputable à toute personne qui se retrouve dans ce genre de comportement.
Et est-ce que vous avez déjà eu à gérer ou à siéger pour ce genre de problème?
Bien sûr, plusieurs cas d'ailleurs. Parce que vous savez, ce qu'on appelle diffamation, hein, ce sont des imputations dommageables en quelque sorte. Donc, si quelqu'un, le fait pour quelqu'un de porter, d'imputer à une autre personne un fait précis, qui est ce fait précis, qui est de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Or, si nous voyons cette définition de la loi, n'importe qui peut tomber sous le coup de cette infraction-là. Donc, c'est pas une infraction qui est propre aux journalistes.
Et à votre niveau, j'aimerais que vous nous donniez un exemple, parce que quand vous dites que c'est pas seulement une infraction imputable aux journalistes, un cas peut-être que vous avez eu, à suivre.
Bon, vous savez, y a des imputations dommageables. Par exemple, vous voyez dans le cas de gens qui sont accusés de sorcellerie, de quelqu'un qui peut être accusé de voleur, vous dites à quelqu'un qui est voleur en public, ça peut être vrai, c'est un fait précis. À ce moment-là, si vous ne parvenez pas à prouver, l'autre peut venir devant le tribunal pour imputation dommageable.
Et cela s'est déjà fait?
Bien sûr, plusieurs fois.
Et voilà, on a déjà des premiers éléments de réponse par rapport à la qualification même pénale de cette infraction de la diffamation. On en aura davantage tout à l'heure. Nicole, il faut qu'on s'arrête là, vous et moi, qu'on écoute nos confrères, qu'on écoute des experts sur cette question. Merci en tout cas d'avoir permis de circonscrire le sujet par rapport à aujourd'hui. Donc ça peut vous arriver à vous qui nous suivez, ça peut arriver aussi à nos confrères. Réagissez, participez ou témoignez. Appelez au 081 890 68 90. Envoyez-nous un message sur action@radiocapi.net si vous nous écoutez en direct de par le monde entier. Nicole Ndaka, merci beaucoup. On se retrouve très prochainement. Vous pouvez envoyer par SMS ceux qui le font. C'est action@radiocapi.net et ça va arriver sur nos ordinateurs. Eh bien, on en fera part. Merci beaucoup, Nicole. On se retrouve dans quelques instants.
Merci à vous, Walter Mayrindi.
Capi Action, chez vous pour vous, le premier sujet. Pour toute l'heure de ce magazine, aujourd'hui, la question de diffamation. Tout le monde peut être poursuivi pour diffamation. C'est pas seulement les journalistes, vous l'avez entendu, mais toute personne. Il y a la loi qui existe, on le dit, dura lex sed lex, la loi est dure, mais c'est la loi. Mais comment est-ce qu'on peut l'appliquer en ce qui concerne cette infraction des diffamations? Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, nous recevons des confrères et un avocat. Ici en studio, nous aurons un procureur en intervention par téléphone. Monsieur Kabea Pindipassi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et président de l'Union nationale de la presse du Congo. Et puis nous avons Monsieur Dona Mbaya. Bonjour Dona Mbaya. Est-ce que le micro de Dona est ouvert? Dona, bonjour.
Bonjour.
Voilà, ça y est. Il est lui président de l'association Journalistes en danger. C'est une association de défense des droits des journalistes. Et puis, Maître Dominique, bonjour.
Bonjour, Walter.
Avocat, vous êtes expert pour Avocats sans frontières Belgique. Alors, cette question de diffamation, on va commencer par vous parce que c'est vous le juriste. Dans notre droit congolais, comment comprenez-vous la diffamation?
Merci beaucoup, Walter. La diffamation, ou autrement appelée imputation dommageable, est une prévention prévue par le Code pénal congolais, livre 2, en son article 74. Cette infraction ou cette disposition répressive du Code réprime le fait d'imputer ou de mettre au compte d'une personne, bien identifiée, bien précise, un fait précis, vrai ou faux, mais un fait de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération ou à l'exposer au mépris public. Donc, à partir de cette définition, les législateurs punissent les comportements des individus qui ont tendance, qui ont pour but, ce qu'on appelle l'élément moral, ce qu'on poursuit, de porter atteinte à l'honneur, à la considération d'autres personnes. C'est un peu pour protéger la vie privée et pour protéger la dignité des individus que cette disposition est prévue par la loi.
Merci. On a dit toute personne, parmi ces personnes concernées, il y a nous, les journalistes. Et je pose la question à M. Donald Maya, président de l'association Journalistes en danger. Est-ce que les confrères sont en danger par rapport à la diffamation, telle que ça vient d'être défini?
Bon, telle que ça vient d'être défini, vous vous rendez compte qu'il n'est pas possible de faire du journalisme. Que vous ayez donné une information vraie ou fausse, vous serez tout de même condamné pour avoir porté atteinte à l'honneur, à la considération d'une personne.
Est-ce que vous estimez que cette disposition pénale diminue la liberté de la presse?
Sensiblement. À partir du moment où un journaliste, je donne un exemple concret, un journaliste découvre qu'un mandataire public est en train de prendre l'argent public à des fins personnelles. Il a des preuves de cela. Il a l'obligation de le dire, de le dénoncer. C'est cela la bonne gouvernance. Mais dès qu'il le dit, dès qu'il le dénonce, monsieur à qui on a imputé ces faits précis, qui sont vrais, peut poursuivre le journaliste devant les cours et tribunaux, et le journaliste sera reconnu coupable de diffamation ou d'imputation dommageable, et il sera condamné. À ce rythme-là, il n'y a plus d'enquête possible pour les journalistes, il n'y a plus de travail de chien de garde de la société, comme on dit. Donc à ce moment-là, il n'y a plus de journalisme tout court.
Monsieur Kabea Pindipassi, vous êtes le président de notre union, l'Union nationale de la presse de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il est possible pour nous d'exercer notre métier sans tomber dans la diffamation?
Oui, mais je crois que c'est un problème d'abord de bonne foi de la part de ceux qui sont concernés par les faits qu'on va relater. Oui. Moi, j'ai l'impression effectivement que c'est trop facile pour eux de dire, tiens, écoutez, voilà, moi, mon honneur a été atteint par la publication de tel article, par la diffusion de telle autre information. Oui. La tâche est très facile, et comme le disait Dona, je crois que ce sont des infractions qui ont été aménagées. Voyez-vous, en France, on parle de 1881, et donc il y avait le contexte du droit international, du droit de l'homme n'était pas celui que nous avons aujourd'hui. Mm-hmm. Et je crois que donc ce sont des dispositions qui devraient être très rapidement supprimées du code pénal, surtout en ce qui concerne la presse, au moment où d'ailleurs nous parlons de plus en plus donc de la dépénalisation des infractions liées donc à l'exercice du métier d'informer.
Délit de presse.
Oui, donc beaucoup ou plusieurs pays plutôt autour de nous commencent déjà à dépénaliser, et donc je crois que s'il y a une première infraction à supprimer, c'est celle-là. Surtout que l'on dit bon, que ce soit vrai ou faux, vous avez porté atteinte. Non, on devrait peut-être dire, écoutez, si c'est faux, Là, effectivement, à partir du moment où c'est faux, et encore faut-il savoir si vraiment le journaliste est de mauvaise foi, mais quand même, quand c'est faux, c'est beaucoup plus difficile, et donc beaucoup plus humiliant peut-être quelque part, beaucoup plus sensible pour la personne qui est touchée. Je crois donc que c'est une disposition qu'on devait très très rapidement supprimer du code pénal, pour permettre... Déjà dans nos pays, vous savez, la liberté d'informer est très très n'est pas facile à exercer, n'est-ce pas? Je crois que nous n'allons pas au-delà de 20 à 25% des marges qui sont les nôtres en ce qui concerne l'information. Et donc si on doit continuer à limiter, eh bien, on n'ira pas plus loin. Nous irons dans une sorte d'hypocrisie où les médias racontent n'importe quoi. Mais les journalistes savent qu'ils ne disent pas 90% de ce qu'ils savent.
Mm-hmm. Voilà, je rappelle que nous sommes suivis en direct. On reçoit parfois des réactions du monde entier. Donc c'est une question qui concerne la corporation. Le monde entier nous écoute parce que sur Internet, www.radiocapi.net, ils nous écoutent, ils peuvent réagir aussi parce que vous avez, Kavya Pendipassi, évoqué la question de la dépénalisation des délits de presse. Je prends un extrait d'une lettre ouverte que l'association journaliste à danger a adressée aux autorités de la transition, notamment au président de la République. Et dans cette lettre-là, notamment, Donald Mbaya, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez signé, si c'est le secrétaire général de l'association, j'ai juste pris un extrait. Alors, on vous dit, je cite, à titre d'exemple, notre code pénal, héritage des années de la dictature du maréchal Mobutu, définit la diffamation comme étant le fait d'imputer à quelqu'un des faits précis, vrais ou faux, ou même de porter atteinte à l'honorabilité. Cette réfraction est punie des peines de prison ferme. Alors vous concluez, vous interprétez en disant, je cite, « À vrai dire, toute dénonciation de détournement, de pillage, etc. est un acte diffamatoire qui peut conduire son auteur à prison. À y regarder de près, et c'est là ma question, je vous cite toujours, « Toutes ces accusations cachaient mal les intentions de leurs auteurs de faire taire des journalistes ou des médias qui dérangent par leur indépendance et leur professionnalisme, et ainsi de suite. » Je cite. Vous voilà. Reconnaissez dans ces écrits.
Exactement.
Alors, on dit dépénalisation de ces effractions. Il y a une commission de réforme du droit que vous citez d'ailleurs. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec ce processus de dépénalisation des délits de presse?
Vous savez, je crois que aujourd'hui, la notion même de la dépénalisation est devenue une notion courante. Ce n'est plus une affaire des seuls journalistes, c'est devenu une notion de débat dans tous les milieux. Je voudrais préciser d'abord une chose, parce que quand je suis les partisans, c'est-à-dire ceux qui sont, disons, ceux qui sont contre la dépénalisation, ils me donnent l'impression que, au fait, la dépénalisation est une prime qu'on donnerait aux journalistes pour bonne conduite. Ça veut dire, puisque les journalistes se sont bien comportés, nous allons dépénaliser les délits de presse. Je dis non, la dépénalisation est une exigence de la démocratie. Ou nous voulons instaurer une démocratie dans notre pays et nous reconnaissons la liberté d'expression. Dans cette liberté d'expression, il y a la liberté de la presse. Et cette liberté de la presse oblige les journalistes à pouvoir mener des enquêtes, à pouvoir chercher, à pouvoir dénoncer tout ce qui avilit la société. Que cela puisse porter atteinte à l'honneur des gens, ces gens n'ont qu'à ne pas commettre ces actes-là. Parce que j'ai l'impression que le juge congolais, il est plus préoccupé par l'honneur des personnes que par l'intérêt public. Et il y a plusieurs exemples pour cela.
Juste un seul.
Parce que juste un seul. Un opérateur économique à Beni, il importe du fuel du Kenya. Les quantités qu'il amène sont minorées quand il arrive au niveau des services de la douane. Le journaliste découvre cela. Preuve à l'appui. On porte plainte pour imputation dommageable. Et le juge ne s'est pas gêné de dire au journaliste que ce qui l'intéressait, c'était que le journaliste a souillé l'honneur d'un opérateur économique
de grande renommée. C'est notre confrère Kibelbel ?
Oui, c'est Kibelbel justement, c'est de lui qu'il s'agit. Mm-hmm. Alors vous imaginez, le trésor public qui perd de l'argent, c'est moins important que l'honneur d'un homme d'affaires. Alors ça, c'est dramatique.
Voilà, merci de nous écouter à Beni dans la bande FM sur 92.0. On va écouter la réaction d'un auditeur.
Je suis l'honorable Beni Debunga, journaliste et ancien directeur d'information de la SNC à Goma. Je voudrais juste intervenir par rapport au statut de journaux satiriques. dont les propos et les dessins heurtent très souvent l'honneur et la dignité des hommes politiques ou autres. Pour nos auditeurs, surtout parce que peut-être pas pour moi, je voudrais que nos invités abordent, ou plutôt répondent à ces deux questions. Qu'est-ce qui protège ces journaux satiriques? Est-ce seule la liberté de presse? Et une deuxième question, un homme politique ou autre peut-il se plaindre en justice de ses propos et de ses satiriques pour atteinte à leur honneur et à leur dignité? Voilà une des questions que je pose, je rappelle, pas pour moi peut-être, mais pour surtout nos auditeurs. Merci.
Merci honorable. Monsieur Kabea, une réaction, une réponse?
Oui, je crois que d'abord le satirique est un genre journalistique qu'il faut intégrer dans l'évolution de la culture. Déjà, voyez-vous, avec les Molières au XVIIIe siècle, etc., le théâtre qui arrive, qui commence un peu, si vous voulez, à stigmatiser les mœurs, n'est-ce pas, les mauvaises mœurs. Et donc, c'est dans cette évolution, effectivement, où la société essaie de trouver, si vous voulez, bien des modalités d'expression, mais, hein, où toutes sortes de formes de critiques de ce qui est avéré à la société, comme le disait Donna tout à l'heure, que donc arrive les journaux satiriques. Vous voyez bien en France que effectivement il y a même il y a les marionnettes, et puis il y a les guignols,
les journaux,
les guignols de l'art, voilà, etc. Et donc on n'a jamais coupé la tête de quiconque dans ces pays-là qui nous ont précédés en matière de démocratie. Le problème, je crois, fondamental, c'est celui que Donna soulevait. Il faut quand même que nous ayons quelque part une sorte d'échelle de valeur. Voyez-vous, une échelle de valeur, oui. Qu'est-ce qu'on dénonce et quel est l'impact de ce qu'on dénonce par rapport donc à l'évolution globale de la société? Est-ce que ce qu'on dénonce là est favorable ou pas par rapport justement à d'autres, effectivement, d'autres conséquences comme ce que lui appelle donc l'atteinte, etc., à l'honneur de quelqu'un? Je crois que c'est un jeu tout à fait conventionnel, là, si on sait le journal satirique. Mm-hmm. Donc c'est conventionnel comme pour les guignols, etc. Il n'y a pas de mauvais sens à faire. Hein? Il n'y a pas de mauvais sens.
C'est un style,
c'est un genre journalistique. Ouais. Et tout le monde, par rapport au contraire de la démocratie, doit commencer justement à s'exercer. Moi, j'ai vu justement, parce que vous avez parlé tout à l'heure de l'affaire Olinda Koy, il y a eu beaucoup de réactions. C'est vrai que M. Olinda Koy a choqué beaucoup de gens, mais je dis qu'au-delà de ce choc, nous devons tirer une première leçon. C'est que la démocratie, les élections essentiellement, seront un moment de grande confrontation. Alors, parfois de confrontation sans merci. Il faut que les gens s'entraînent. Il faut que les gens commencent déjà à prendre ses habitudes. Oui, nous appelons la démocratie, mais quel est le prix que nous payons? Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix de la démocratie et la liberté au pluriel? Voilà, la question fondamentale que je peux soulever à marge de ces deux questions qui sont soulevées.
Maître Dominique, vous qui êtes avocat, est-ce que le fait de, je vois Grenon, je vois Pili Pili et tout, le fait qu'ils représentent certains acteurs politiques dans ce genre journalistique, qu'est-ce que ça porte atteinte à l'honneur de qui que ce soit?
Bon, moi je pense qu'on doit faire attention surtout aux images et aux styles, au message qui est véhiculé pour pouvoir nous rendre compte qu'est-ce que le journal recherche à travers tel style, à travers tel message. Le fait de porter atteinte à l'honneur, à la considération d'une personne ne peut pas se présumer d'emblée à partir d'un message. C'est pour cela que même dans la qualification des faits, quand on fait l'étude des faits pour arriver à déterminer si les faits dont question ou les faits sous examen tombent sur le coup de telle ou telle disposition légale, il y a les éléments matériels que l'on examine et il y a aussi l'élément moral. C'est ça qui est plus important. Qu'est-ce que l'auteur recherche? Est-ce que l'auteur a écrit, a agi dans l'intention de nuire? Si cela est établi, alors là on peut dire qu'il a effectivement porté atteinte à l'honneur, à la considération d'une personne, et on peut dire que l'infraction est établie, et à ce moment-là, la loi peut frapper. Mais si l'élément moral n'est pas retenu dans la qualification des faits et dans la détermination des éléments constitutifs de l'infraction, on ne peut pas dire que dans ces cas-là, il y a eu atteinte à l'honneur, à la considération de la personne et où on doit réprimer.
Je crois, maître, ici, en ce qui concerne la diffamation, je crois que l'élément moral, on dit, il suffit que quelqu'un dise « mon honneur a été atteint, c'est fini, l'infraction est consommée ».
Il suffit, mais
ça fait très, très arbitraire. Ouais,
il y a Pédi Passi, il y a
même des cas, ça veut dire, ce qui intéresse le juge,
c'est qu'il suffit que la personne qui se plaint puisse démontrer que l'information a porté atteinte à son honneur. Et nous avons suivi un procès où le plaignant a dit que ses enfants à l'école ont été la risée de leurs collègues parce qu'un journal a écrit que leur papa était un détourneur. Et le juge s'est basé sur le fait que les enfants ont été la risée de leur colère à l'école pour dire que la considération de monsieur en tant que père de famille a été entamée et le journaliste a été reconnu coupable.
Maître Dominique, est-ce que cela suffit-il?
L'interprétation qu'une personne peut faire d'un fait ne peut pas déterminer la conviction du juge. Les juges doivent mener des enquêtes, interroger l'auteur des écrits ou l'auteur des paroles ou des images, s'il s'agit de l'audiovisuel, pour pouvoir asseoir sa conviction. Le juge ne peut pas limiter sa conviction aux seules déclarations ou dépositions de la personne qui l'a saisie.
Malheureusement, le sujet est très intéressant. Oui. On va y arriver. Molo, on va prendre tout le temps.
Vous savez que, de ce point de vue, quand on examine cette infraction, quand le journaliste dit tel monsieur a été condamné à autant d'années d'emprisonnement, mais il porte atteinte à sa dignité. C'est une information.
Il a rapporté les termes d'un
jugement. Si nous devons aller vraiment jusqu'au bout de cette logique, eh bien, le fait de publier toutes sortes de condamnations que prononce le juge, eh bien, ça, c'est des infractions. On a droit à l'information. Je dirais que c'est des faits qui peuvent être, ils peuvent donner lieu à des infractions. Il y a des plaintes, effectivement. Et on va dire, effectivement, bon, écoutez, monsieur a été condamné, mais il n'était pas nécessaire de le dire dans le journal.
Non, de toute façon, les jugements sont prononcés et rendus en public. Et en principe, doivent être publiés au journal officiel. Et dès qu'ils sont publiés, leur caractère public est autorisé. Le fait qu'un jugement soit publié dans un journal ne peut pas constituer une infraction, sauf si les journalistes publient les faits de l'instruction d'une cause ou les faits pendant que le procès se déroule avant qu'il n'y ait jugement définitif, sans l'autorisation du juge ou du tribunal qui est en train de connaître l'affaire.
Je crois que l'intervention du président, il dit ceci. Je prends un exemple, nous sommes en train d'aller
très
aux élections.
Court.
Très court, nous sommes en train d'aller aux élections. Un journaliste peut faire le portrait de quelqu'un.
Oui.
Dans ce portrait, il rappelle que monsieur avait été condamné à 5 ans de prison.
Et donc, les conditions d'éligibilité peuvent le disqualifier.
Oui, alors, monsieur peut poursuivre le journaliste.
Non. Oh, ce n'est pas le cas.
En principe, un jugement, quand il a été rendu, il est public et au tribunal, tout le monde peut lire les archives, toute personne intéressée. Et en principe, le jugement devait être publié au journal officiel. Ça, il n'y a pas en cela une atteinte à l'honneur de la personne parce que le jugement a été prononcé en public. Il est censé
couler
de tout le monde. Si notre service de fichiers était organisé, les casiers judiciaires de cette personne doivent être déjà entachés et marqués.
Espérons que M. Dominique sera prêt et disponible pour venir défendre les journalistes qui feront état de ce type d'informations.
En FM, sur Internet, par satellite, Okapi, la radio proche de vous. Okapi.
Aujourd'hui, proche de ceux qui peuvent être poursuivis pour diffamation, ma foi, pour certains faits non encore avérés, mais bon, pour lesquels ils sont condamnés, nous avons une réaction d'un auditeur.
C'est Nikes qui m'appelle Oka, journaliste à Béni. Je voulais intervenir d'abord concernant la loi, la définition même de la diffamation. Cette loi, comme l'ont si bien dit nos confrères sur le plateau d'Okapi, et date de 1881, dans un contexte purement en France où il y avait, où le gouvernement devait faire face aux cris et autres. Ils ont institué la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Et il faut aussi ajouter que le législateur congolais a copié presque servilement la loi française sur la liberté de la presse sans l'adapter aux conditions actuel de notre pays. Donc, il est malaisé, d'après nous, que le juge congolais, la magistrature congolaise, puisse appliquée à la lettre, surtout que s'il faut noter que la loi est écrite en français, en un très bon français.
Voilà, Kibelbel qui nous écoute, depuis Béni, qui a suivi Kabia Pendipassi, président de l'Union de la presse.
Oui, moi ce que je voudrais faire remarquer, c'est ceci, dans le contexte général du droit congolais, il faut qu'il y ait réellement et de façon claire et nette un sens d'équité. Ce que nous voyons, par exemple, ici au jour d'aujourd'hui, dans l'évolution de la transition, c'est qu'il y a des faits, n'est-ce pas, qui peuvent donner lieu à des procès ou qui devraient d'office donner lieu à des procès. Et bien, ce fait-là, parfois, on dit qu'il y a eu une négociation, qu'il y a eu contact politique et tout ça, et l'affaire s'arrête là. Moi, je vous dis que dans l'est du pays, je crois que tout le monde sait, à deux reprises, des gens ont levé les armes contre la République.
Oui.
Et on n'a rien fait au jour d'aujourd'hui. Les procureurs généraux, partout et tout ça, et ils savent que ces faits-là sont effectivement, doivent donner lieu à des poursuites, immédiatement. On n'a rien vu et on n'a rien entendu. On ne nous a pas dit pourquoi il n'y a pas eu de poursuites. Alors, devant ces genres de faits si graves pour l'évolution de toute une nation, on voit que des faits, moi je pense que les faits du journaliste, c'est fait tout à fait largement, intensément mineur.
Par rapport à ce que je viens de dire,
il y a des gens qui sont morts, on a tué le monde et tout ça. Alors, les journalistes qui dénoncent ceci et tout, c'est des faits tout à fait mineurs. Mais ce sont eux qui vont aller en prison. Alors ça fait quoi? Ça donne lieu, ça donne l'impression d'une vitesse à mille vitesses. Mm-hmm. Une justice à mille vitesses, je vous dis. Voilà. Donc, les journalistes qui ne peuvent pas aller négocier ou faire pression, etc., eh bien, ce sont des gens qui sont tout à fait faibles, et tout naturellement, les portes des
maillots leur sont ouvertes.
Oui, mais les autres, ils sont défendus, et alors, ça manque d'équité, ça manque de... je ne sais pas.
On a compris. Alors, une réaction de Don Mbaya, et puis l'homme de droit, l'avocat, va intervenir.
Ce qui est terrible dans l'affaire de diffamation en ce qui concerne particulièrement les journalistes, vous-même vous avez dit que la diffamation est une infraction de droit commun avant d'être un délit de presse. Ça veut dire que tout le monde peut commettre cette infraction-là. Mais ce qui est terrible en ce qui concerne les journalistes, c'est quoi? Regardez tous les cas où des journalistes sont allés en prison, le plaignant est un ministre, est un PDG d'entreprise, est un opérateur économique qui brasse des millions. Ce n'est jamais des simples citoyens, ce n'est jamais des enseignants, ce n'est jamais le directeur d'une école primaire qui pourtant peuvent être aussi diffamés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement c'est une infraction au service de ceux qui ont une parcelle de pouvoir, qui ont une parcelle de pouvoir politique ou de pouvoir économique et qui s'en servent pour, au fait, faire taire toute personne qui essaye de mettre le nez dans leurs affaires. C'est simple. Il n'y a jamais eu un procès en diffamation d'un directeur d'une école contre un média, d'un enseignant. Rien du tout. C'est toujours des ministres, des PDG, des officiers supérieurs de l'armée, des opérateurs économiques qui brassent des millions. Et vous savez, la célérité même avec laquelle les journalistes atterrissent en prison. Il suffit que monsieur se plaigne aujourd'hui. Dans les 48 heures au plus tard, le journaliste a atterri dans une prison. Alors qu'il y a des affaires, des affaires de vol de poules qui prennent 5 ans devant nos cours et tribunaux.
Voilà, on peut citer des cas que même Reporters sans frontières a évoqué en 2003. Les cas de notre confrère Guy Kasongo qui est moué et j'en passe. Maître Dominique.
Oui, je voulais dire en réaction à ce que le président Kabir venait de dire tout à l'heure. Je ne suis pas officier du ministère public.
Mais en tant que juriste.
En ce qui concerne l'initiative de poursuite, cette initiative de poursuite est dans les attributions de l'officier du ministère public. Il y a les officiers du ministère public militaire et civil selon les cadres de leurs compétences respectives. Mais en ce qui concerne l'initiative de poursuite, il y a d'abord le principe de la légalité des poursuites, c'est-à-dire que les faits et tout ça doivent être prévus par la loi. Et il y a aussi ce qu'on appelle dans l'appréciation l'opportunité des poursuites, c'est-à-dire que l'officier du ministère public, par rapport aux circonstances des temps, des lieux et par rapport à l'environnement et à plusieurs autres circonstances,
donc, apprécie l'opportunité
des poursuites. Et en ce qui concerne le cas des journalistes, je connais très rarement des cas où l'officier du ministère public s'est saisi d'office d'un dossier pour diffamation.
C'est rare.
Dans la plupart des cas, c'est sur plainte des victimes.
D'accord.
Personnes qui se sont senties lésées. En ce qui concerne l'autre aspect des choses, généralement, on voit beaucoup de procès pour imputation dommageable. Moi, j'en ai déjà vu et j'ai déjà
eu
beaucoup pour des personnes à la cité. Peut-être dans ce cas-là, on ne parle pas directement des diffamations, on parle plus de la qualification d'imputation dommageable. On m'a traité de sorcier dans le quartier, donc ça va de pair. Donc il y a aussi bien des journalistes et d'autres citoyens, d'autres compatriotes qui sont.
Nous avons un officier du ministère public en ligne. Il s'agit du procureur Massoudi. Bonjour, votre honneur.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, j'ai ici le président de l'Union nationale de la presse du Congo. J'ai le président de l'association Journalistes en danger. J'ai un avocat expert pour le compte d'Avocats sans frontières. Je suis sûr que vous nous avez suivis depuis les débuts. Je vous pose une question principale. À quel moment vous, procureur, jugez-vous de la recevabilité ou non d'une plainte pour diffamation s'agissant d'abord de tout citoyen? On va entrer dans le cas spécifique des journalistes en deuxième lieu.
Bon, je crois que votre question devrait être articulée autrement. La question de savoir comment est-ce que le ministère public met en mouvement la procédure en ce qui concerne la diffamation.
Parce que vous posez cette question, est-ce que vous pouvez y répondre vous-même? Monsieur le procureur?
Oui, je vous en prie.
Ben oui, à quel moment est-ce que vous activez le mécanisme?
Non, je vous suis.
Ben oui, je vous écoute parce que vous avez pensé que je devrais poser ma question autrement. La question, je la remets, celle que vous nous avez proposée. À quel moment, vous, procureur, est-ce que vous actionnez le mécanisme juridique en ce qui concerne la diffamation?
Nous actionnons le mécanisme juridique par de deux manières, soit sur plainte de la partie lésée ou par une saisine d'office.
Alors, la partie lésée, c'est un plaignant qui arrive. On sait que lorsqu'il s'agit des journalistes, c'est souvent des grandes personnalités qui se plaignent. Là, c'est une plainte, c'est la vente de soi. Mais lorsque vous dites dans l'autre mécanisme, le second, comment ça se passe?
C'est-à-dire que nous recevons la plainte de la personne lésée, cette personne nous saisit par une plainte, nous examinons les faits et avant de placer, je crois que contrairement à ce que d'aucuns pourraient penser, nous n'arrêtons jamais quelqu'un pour le plaisir de le faire, nous arrêtons quelqu'un lorsque les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis. Il n'est pas dit que dans la plainte que nous recevons en matière de diffamation, nous arrêtons immédiatement les gens, je crois. Les journalistes qui parlent là-bas, nous avons beaucoup de plaintes ici, nous devons faire les statistiques entre les personnes qui sont arrêtées et les personnes qui ne le sont pas.
Monsieur le procureur, le code pénal livre 2, les articles qui concernent la diffamation disent qu'il s'agirait des faits précis, vrais ou faux, à même de porter atteinte à l'honorabilité de quelqu'un. Comment vous, procureur, arrivez-vous à nourrir votre intime conviction sur des faits faux, par exemple? Parce que la loi dit pour des faits vrais ou faux. Lorsqu'il s'agit des faits faux, comment nourrissez-vous votre intime conviction pour déclencher les mécanismes juridiques?
Non, l'intime conviction, c'est l'affaire du juge, ce n'est pas l'affaire de nous, le ministère public. L'intime conviction, c'est parce que nous arrêtons la personne. Lorsque la personne est interpellée, nous l'interrogeons. Et si les éléments constitutifs sont réunis, nous le plaçons sous mandat d'arrêt provisoire, nous le plaçons en détention préventive. C'est au niveau du juge qu'on apprécie les autres éléments donc de l'intime conviction auxquels vous faites allusion. Donc la loi parle qu'il faut qu'il y ait des éléments matériels et l'élément moral. C'est-à-dire qu'il faut imputer à une personne un fait précis qui soit de nature à porter atteinte à l'honneur ou à sa dignité.
Je vais vous laisser écouter un confrère. Jeudi, si on peut écouter notre confrère. C'est l'histoire d'un journaliste qui a raconté un fait précis. Alors vous nous direz, si c'est à vous qu'on avait soumis ce dossier, qu'est-ce que vous allez faire?
Vous m'accusez de diffamation, soi-disant que j'ai diffusé une mauvaise information, une fausse information au sujet d'un homme politique. Donc, qui était dans l'opposition. Je vais dire le monsieur Lengankoy. Mais moi j'avais toutes mes preuves. Parce qu'il y avait des facsimilés avec la signature ce ministre-là, il n'était pas encore ministre, avec la signature de cette personnalité-là. Et le journal a repris le fac-similé avec notre preuve qui était là, les déclarations des gens qui étaient avec lui dans cette affaire-là, dans ces faits-là. Mais seulement pour avoir compris que c'est un fait qui pouvait avoir, faire une tache d'huile sur sa carrière, sur ses activités politiques, il a juste saisi la justice avec toute publicité qu'il avait pour essayer de m'intimider, pour essayer d'intimider la presse, pour essayer de nous baïonner. Tout ça, c'est un arsenal de manœuvres d'intimidation et de tentatives de baïonnement de la presse, sous prétexte que le journaliste a été dans la liste. Et finalement, on a compris que c'était une manœuvre d'intimidation. Et un beau matin comme ça, j'ai appris qu'il y avait une autre ministre de la justice de l'époque, exigeant ma relaxation, comme ça, ça tombe comme ça de nuit. Alors je ne comprends pas, alors diffamation, pourquoi l'affaire a été politisée directement, passer à la diffamation, à l'affaire politisée, et puis à la relaxation parce qu'il y avait pression. Je n'ai plus rien compris dans cette affaire-là, madame.
Monsieur le procureur Massoudi, si c'est vous qui devriez étudier ce dossier, qu'auriez-vous fait?
Je l'aurais examiné de manière froide par rapport aux éléments constitutifs de la... Donc, par rapport aux éléments constitutifs, et non pas par rapport à une politisation de quoi que ce soit. Nous examinons ce qui est prévu par la loi, la politique, c'est son interprétation à lui.
Mais il avait des preuves, des facsimilés, il a été tout de même accusé, arrêté, mis en prison. Il a fallu l'intervention d'un ministre de la justice pour qu'il soit libéré.
Je crois que là, il y avait un élément moral. Je crois que... Donc, il faut qu'il... Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'imputation ait été faite méchamment, c'est-à-dire que dans l'intention de nuire. Je crois que le ministre est une personne comme toute autre qui a besoin de son honneur aussi, peu importe la fonction qu'il exerce.
Il n'était pas encore ministre à l'époque et le journaliste avait des facsimilés. Il a mis dans son journal des faits qu'il était en droit de mettre dans son journal pour informer l'opinion.
Je ne préfère pas analyser les faits par rapport à un fait isolé, je préfère toujours analyser les faits par rapport à un cas. La loi a une portée générale et il n'est pas bon pour moi de m'attarder dans une analyse d'un fait isolé de cette manière-là.
Mais monsieur le procureur, du fait que vous preniez l'aspect général de l'effraction, et ça fait tout le temps précédent, que chaque fois qu'un journaliste est accusé pour diffamation, on a fait état notamment d'une célérité particulière qui est accordée à ce genre de dossier.
On n'avait qu'à faire l'état des statistiques, combien de journalistes sont arrêtés pour ça, combien sont en prison pour que vous puissiez faire état de cette situation de cette manière.
Monsieur Donambaya, est-ce qu'il y a des chiffres à ce sujet parce que vous êtes président de l'association Journalistes en danger?
Bon, je suis ravi de suivre monsieur le procureur. Pour l'instant, il n'y a pas de journaliste en prison, mais je l'informe qu'il y a un journaliste qui est en clandestinité parce qu'il vient d'être condamné il y a... 2 semaines par la cour, par le tribunal de paix de Pont-Kassavubu à 4 mois de prison, par défaut en plus pour diffamation. Et le plaignant, c'est une des grosses sociétés pétrolières de la place. Et le journaliste est en clandestinité. Ses avocats ont fait opposition et l'affaire va reprendre dans 2 jours. Voilà, ça ce sont des faits concrets.
Réaction de Kabir Abdelli Passy.
Oui, c'est à propos des statistiques, hein, disons que les plus célèbres, c'est entre 1997 et 2000, au moins 200 journalistes ont été arrêtés pendant ce temps-là, dont 110. 110 journalistes ont été arrêtés entre 1997 et 2000, dont 50 seulement cette année-là, 2000. Alors ça, c'est un record mondial, jamais battu même par les États les plus totalitaires de ce qui était hier l'Union soviétique. Donc c'est le record mondial d'arrestation du journaliste dans un pays, disons à travers le monde. Donc c'est le Congo où on a arrêté le plus de journalistes ces dernières années. Donc je vous dis, à l'an 2000, on en a arrêté 50. Et entre 1997 et 2000, on en a arrêté 110.
Voilà, monsieur le procureur Massoudi, là, vous avez entendu tour à tour Donambaya, du journaliste en danger, et monsieur Kabir Abdelli Passy, président de l'Union nationale de la presse. Mais la question qu'on se pose, et on le remarque, du fait qu'il y a cette célérité, qu'il y a tous ces cas, dans la corporation, on a l'impression que le parquet, notamment vous, officier du ministère public, vous êtes presque un instrument de répression de la liberté de la presse.
Loin de là.
Qu'est-ce qui peut être fait, à votre avis, pour qu'il n'y ait pas cette impression-là? Parce que je vous confirme que l'impression est là et réelle.
Dites, vous pouvez vous répéter, je ne vous ai pas bien saisi.
Qu'est-ce qui peut être fait pour que les procureurs, ministères d'officiers publics, les journalistes et tout le monde puissent, que chacun puisse exercer son métier, de sorte qu'il n'y ait pas la, le pouvoir public, la force publique, vous, les représentants de la loi, qui puissiez prendre des décisions qui nous empêchent, nous, journalistes, de mieux faire notre travail.
On vous demande de faire le travail, vous faites votre travail, mais pourvu que vous le faites dans le respect strict de la loi, c'est tout.
Mais lorsque dans plusieurs pays, on évoque notamment la question de la dépénalisation de certains délits de presse, je sais que vous me direz que ce n'est pas à vous de répondre, mais vous, vous êtes procureur, vous avez déjà eu à traiter de ce genre de cas, regarde l'aspiration à la démocratie, à la bonne gouvernance. Est-ce que vous pensez que la dépénalisation de la presse, vous, si vous étiez expert dans un atelier, vous l'appuierez, vous?
C'est un problème de l'avenir, mais tant que la loi n'est pas encore abrogée, elle reste la loi.
Mais voilà.
La dépénalisation est vue dans le sens d'une perspective d'avenir que nous pouvons tous agréer, mais tant que cette perspective n'a pas encore abouti, on n'a plus les dispositions qui sont à notre disposition.
Bien, Monsieur Massoudi, je rappelle que vous êtes procureur de votre État, donc souvent officier du ministère public, personnalité devant laquelle plusieurs plaintes arrivent, notamment celles relatives à la diffamation. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions et vous souhaitons d'ici là que cette perspective arrive très vite pour que vous puissiez appuyer ce processus de dépénalisation des délits de presse.
Merci
beaucoup. Avec nos confrères, on va conclure dans quelques instants.
Okapi, pour que la paix ne soit pas qu'une belle idée.
J'espère que l'exercice sera facile en 30 secondes chacun pour conclure cet échange. Monsieur Donambaya, président de Journalistes en Danger, par rapport au processus de dépénalisation, parce que les procureurs ne peuvent que appliquer la loi, et la loi que nous avons est celle-là, elle est libérée de cette façon-là, on ne peut pas la changer. Quels sont les efforts qui sont mis en œuvre pour obtenir la dépénalisation de notamment les fractions de diffamation, et surtout faire en sorte que si on n'y arrive pas, en tout cas au moins, tout au moins, que toutes les infractions de diffamation ne puissent pas être sanctionnées par l'emprisonnement, parce que ça, c'est des deux démarches corollaires.
Bon, je voudrais dire que la loi, on peut la changer, c'est pour ça qu'il y a une commission de réforme du droit congolais. Il est clair que l'arsenal juridique congolais date d'une certaine époque, qui traduisait un environnement sociopolitique de l'époque. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre environnement sociopolitique, et comme nous l'avons toujours dit, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. On ne peut pas dire qu'on est venu libérer les gens et qu'on continue à régenter ces gens en se fondant, en se basant sur des lois qui ont fait le lit de la dictature. Et nous considérons que la définition de la diffamation chez nous, c'est une définition qui faisait justement le lit de la dictature.
Et qu'est-ce
nous avons l'obligation,
10 secondes,
il faut changer.
Il faut changer. Voilà. Maître Dominique Amando.
Bon, pour terminer, j'ai dit que nous appelons de tous nos voeux l'état des droits. Et l'état des droits, l'idée primordiale, c'est la primauté de la loi. Le mieux à faire, c'est d'inviter tout le monde à travailler et à se comporter conformément à la loi.
Alors, et une question, c'est de Maître Bayombo, c'est par là peut-être qu'on terminera ça tout à l'heure avec Kabeyapi Lipassi, le temps de passer au prochain programme sur Radio Okapi.
Radio Okapi, le rendez-vous de l'information.
Et la question qui arrive, c'est donc celle-ci qui va permettre à M. Kabeyapi Lipassi, président national de l'Union de la presse de la République démocratique du Congo, à y répondre. C'est une question de M. Bayombo du Kinshasa. Il pense qu'on doit laisser le journaliste faire son travail librement, mais celui-ci ne doit pas aussi dépasser des bornes. Bayombo constate que parfois les journaux écrivent des histoires fausses qu'ils ne sont même pas en mesure de vérifier. Bayombo estime que l'UMPC doit aussi discuter de cela lors de ses réunions et aussi veiller sur la déontologie du métier. Monsieur Kabeyapi Lipassi.
Je dois dire tout de suite d'abord que chaque société n'a que la presse qu'elle mérite. C'est vrai donc que les journalistes ont besoin de liberté pour pouvoir agir, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord également avec lui quand il dit que nous devons intensifier la campagne d'information et de formation sur l'éthique et la déontologie, mais également sur la législation dans son ensemble. Et nous allons au-delà. Nous avons tout un programme de formation en ce qui concerne les techniques de l'information. Mais moi, j'aimerais dire tout simplement ceci aux hommes de la loi. C'est de prendre la spécificité du domaine de la presse. Mm-hmm. C'est un domaine tout à fait spécifique. N'oubliez pas que c'est un domaine très sensible. Écoutez, on peut arrêter un homme d'affaires ici, ça ne va pas soulever de vagues, mais quand on arrête un journaliste, toutes les rédactions à travers le monde doivent arrêter tout pour donner cette information. Le journaliste, d'ailleurs, est protégé par cette solidarité professionnelle. Et donc, à partir du moment où cette information est répercutée dans toutes les rédactions, l'AFP, RFI, La Voix de la Veille, etc., eh bien, ça donne déjà une très mauvaise image pour le pays. Il faut que les hommes de la loi le sachent. Il faut aussi que les hommes politiques, les hommes d'affaires, etc., qui se plaignent, moi je dis, trop facilement vis-à-vis de ces infractions que je qualifie de mineures commises par des journalistes, eh bien, il faut aussi qu'ils le sachent. Qu'ils sachent que les pays partenaires, les institutions financières internationales, partenaires de la République démocratique, tiennent compte de ça. C'est-à-dire que l'évolution de la démocratie, on la lit à travers cette sorte de baromètre, n'est-ce pas? Quel est l'état de la liberté d'informer? Parce qu'avec ça, on peut savoir que si les journalistes sont réellement libres, ne sont pas inquiétés pour un oui ou pour un non, on peut savoir aussi que la justice marche dans ces pays. Et donc, les hommes d'affaires peuvent se dire, tiens, on peut aussi mettre de l'argent. Ça, c'est extrêmement important. Il faut qu'on le sache. Le domaine de la presse est un domaine extrêmement sensible. Chaque fois qu'on veut, je veux bien qu'on puisse appliquer la loi, mais on devra savoir que quand on touche à un journaliste, qu'il soit fautif ou pas, on doit savoir respecter la procédure, respecter la loi et de ne pas faire ça de façon, je dirais, passionnelle, de façon partisane. Il faut qu'on puisse effectivement respecter aussi le principe d'équité. S'il y a des infractions extrêmement lourdes qui mettent la nation en danger, qui ne sont pas liées à des poursuites, on devra se dire, a fortiori, pour les journalistes qui ont le droit de se tromper, on peut aussi fermer les yeux et demander à l'UNPC, à toutes sortes de structures, effectivement, comme on le dit M. Bayombo, d'intensifier l'encadrement pour que nous puissions, nous tous, ce que nous recherchons, c'est d'avoir une presse de qualité, mais nous devons en payer le prix, et ce prix-là, il est toujours très lourd, malheureusement.
Mais Kabeya Pindipassi, vous défendez très bien, bravo, notre chapelle, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'au sein de notre chapelle, il y a quand même des croyants, enfin je veux parler des journalistes, est-ce que vous ne pensez pas qu'au sein de notre corporation, quand même, il y a des confrères qui peuvent dépasser les bornes, est-ce que nous sommes tous sains?
Nous ne sommes pas tous sains. Vous savez, l'évangile est là depuis bientôt 2000 ans. On continue toujours à prêcher la même chose. Donc, je crois que le code de déontologie du journaliste est là depuis 400, 500 ans au maximum. Donc, nous devons effectivement continuer ce travail que nous avons commencé, mais il ne faudrait pas non plus que nous puissions être stressés pour pouvoir parvenir à des meilleurs résultats. Donc, ce que nous devons, nous sommes conscients qu'effectivement, il y a du bordel dans la presse congolaise. Hein, moi, je ne m'en cache pas. Nous sortons d'un atelier sur le plan directeur de la presse nationale. Nous nous sommes dit la vérité. Oui, nous nous sommes dit la vérité. Et nous avons pris le pari d'améliorer, mais en même temps, j'insiste sur la nécessité de nous garantir un minimum de sérénité pour pouvoir faire ce travail donc, de façonnage et de fabrication de la qualité.
Bien, on me dit qu'il y a un auditeur qui veut réagir. Je vous ai dit qu'on ne pouvait pas aller au-delà. On va l'écouter.
Oui, je m'appelle José Boïka. Oui, je voudrais intervenir pour remercier M. Kabeya Pindipassi pour le courage qu'il a eu pour essayer de soutenir fermement les journalistes, M. Mbaya de GED. L'intervention de tout à l'heure de Martou Dibolia, le procureur, il est mort parce que dernièrement, c'est l'éditeur du journal Tapis Rouge qui était en problème avec... Le directeur de la DG, M. Boulambo, il a été arrêté sans mandat de comparution le samedi vers 11h. Il est allé en prison le dimanche sans être jugé. C'est vraiment des injustices graves qu'il faut absolument dénoncer. Et je voulais intervenir et puis remercier M. Kabeya Pindipassi et les autres pour leur courage.
Et voilà, ça n'appelle pas des commentaires, je crois. Et lorsqu'on dit que l'information, c'est une denrée rare, on a reçu un SMS d'un auditeur de Mahagui. Il est désolé, comment pouvons-nous manquer Action ce matin à Mahagui? La radio est coupée, hein? Et puis Walter au secours, Daisy, je sais pas. Ça doit être un problème technique peut-être. Je dis, est-ce qu'on a posé la question à nos amis techniciens, pourquoi Mahagui? Non, ça va venir, la réponse. Il faudra donner la réponse avant la fin du magazine. Ouais, ils réclament quand ils n'ont pas leur radio. Ils réclament quand un lecteur n'a pas son journal. Ils réclament s'il rate son journal télévisé des 19h sur la chaîne tropicale du Congo, Tropicana, si vous voulez. Ils s'inquiètent. L'autre fois, quand il y avait eu des coupures, notamment, il était 19h, le journal commençait, et puis à peine les titres que notre consoeur annonçait, M. l'abbé Madimba qui était invité, bouf, le noir. On était malade. Pourquoi en fait Tropicana avait connu cette coupure ce jour-là? On ne veut pas retourner le couteau dans la plaie, mais pour information.
Bon, moi je crois que l'ordre a été donné de couper le courant sur le site. Hein, et on voulait, je crois que c'est... Là je cite M. Kitutu, hein, qui est le directeur général du canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Donc on avait donné l'ordre, je ne sais pas de la part de qui, hein, j'ai déjà dit précédemment que le PC jusque-là n'avait aucune information officielle sur ce qui s'était passé, mais au moins lui il a déclaré que quelqu'un a donné l'ordre qu'on puisse couper le signal de canal Congo, ça a été fait, puis canal Kin c'était impossible, et puis l'ordre est venu de couper le courant sur l'ensemble du site pour obtenir donc l'interruption des émissions, donc voilà. Alors je voulais juste dire un
en conclusion, oui, parce qu'on va finir, on est rentré dans la deuxième heure pour d'autres sujets.
Exactement. Nous devons savoir que l'information, c'est la ressource des ressources. Et dans notre pays, c'est difficile, c'est très très difficile d'accéder à l'information. Écoutez, vous avez appris qu'on va, par exemple, publier, disons, mettre en circulation les nouvelles coupures de la monnaie, le franc congolais. Allez demander au gouverneur de la Banque centrale s'il peut vous dire combien ça va nous coûter d'imprimer ces billets-là. Je ne sais pas si vous aurez l'information. Donc, c'est extrêmement difficile d'accéder à l'information. Au jour d'aujourd'hui, des gens sont au Parlement en train de discuter sur les propositions de consultation, de constitution, etc. Allez demander à ceux qui sont au Parlement ou au Sénat si vraiment on est disposé à vous dire tiens, quels sont les schémas qui se dessinent au jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas. Alors, vous voyez, c'est un métier extrêmement difficile pour nous. Donc, déjà, d'accéder à l'information est déjà extrêmement compliqué. Et j'aimerais donc que les amis de la loi puissent le savoir. Parfois, c'est vrai, comme le dit le procureur, la loi c'est la loi, mais il faut quand même essayer de contextualiser. N'oubliez pas que quand les 315 magistrats ont été mis à la porte, donc sur le carreau, de la façon que l'on sait, c'est nous, les journalistes, qui sommes restés sur le terrain à faire le syndicat, le syndicalisme pour eux. Jusqu'au jour où ils ont été réhabilités. Eux, ils n'ont jamais pu, tout magistrat qu'ils étaient, ils étaient sur le carreau, et ils n'avaient aucun pouvoir, parce que bon, je crois que la déontologie du magistrat ne lui permet pas, ou à l'époque ne lui permettait pas, de faire beaucoup de bruit. Mais c'est nous qui les défendions. Quand il y a eu dans ce pays un monopartisme de fraîche date, vous vous souvenez, mais qui faisait l'opposition à l'époque? C'est seulement la presse. Et donc, c'est
mais il y a craint que le journal soit utilisé par les politiques.
Mais c'est le travail que les structures d'encadrement devront faire, comme je disais à l'instant, mais ce que nous devons savoir, c'est que cette structure, ce corps de métier, nous en avons besoin. Nous en énormément. Changé. Avant de quitter chez vous, vous avez besoin de savoir si le centre-ville est en paix, s'il y a la sérénité. Et ce travail du journaliste, dès le matin, de quitter son lit et de vous dire, venez au centre-ville, travaillez comme monsieur doit. Vous voyez, c'est pour ça qu'on nous appelle le chevalier, parce qu'effectivement, il y a cette dimension de la dignité. Nous sommes au service de la vérité, c'est vrai. Nous sommes au service de la vérité. Et la vérité, c'est difficile. Nous sommes des marchands. Nous sommes des marchands. Je le reconnais, je le reconnais. Nous sommes des marchands des idées. Et je vous dis, je l'ai déjà dit, les idées, c'est ce qui est le plus difficile à vendre. Si vous demandez à un musulman de devenir catholique, il va vous regarder avec... il va écartiller les yeux, il dit, écoutez, celui-là, il est tombé sur la tête ou quoi? Et si vous demandez aux catholiques de venir, de même. Donc, ça, ce sont des idées et c'est le travail que nous faisons. Les partenaires, les consommateurs et même les hommes de la loi en premier doivent savoir que c'est difficile de vendre les idées.
Tous partenaires pour la vérité. Kabia Pinipassi, merci d'être venu. Monsieur Donambaya, merci beaucoup pour les combats pour la liberté d'expression. Merci d'être là. Merci. Maître Dominique Amandou, merci de nous avoir apporté la lecture juridique de la diffamation. Ce qu'on a compris, c'est que le combat est encore long à faire. La loi est encore là, n'a pas été changée. On espère qu'elle sera changée. Et peut-être des mécanismes pour que l'effraction des diffamations ne soit pas poursuivable, ne soit pas punissable par une peine d'emprisonnement. Ce sont là les termes de négociation dans le cadre de la réforme du droit congolais. J'espère qu'on est d'accord là-dessus. Merci, on va se retrouver pour la deuxième partie du Okapi Action. Nous nous rendrons à Kindu et à Mbujimayi. Okapi Action, la deuxième partie du magazine aujourd'hui. Je dois dire à notre auditeur qui nous appelait de Mahagi que on a posé la question à notre équipe technique qui va nous amener la réponse dans quelques instants, dans les secondes qui suivent. Merci de nous écouter et de continuer à le faire, principalement à Kindu, dans la bande FM sur 103. À Kindu, il se pose, ma foi, des problèmes, quelques inquiétudes. On a observé une hausse démesurée du taux du loyer depuis quelques temps. Ça conduit souvent à une situation d'échauffourée entre bailleurs et locataires. Que se passe-t-il à Kindu? En tout cas, moi je suis à Kinshasa, je ne sais pas vous dire. Mais au moins peut-être avec notre confrère Gabriel Wamena qui est à Kindu, il peut nous dire ce qu'il en est au juste. Gabriel, bonjour.
Oui, bonjour Walter.
Alors dites-nous, depuis quand cette situation est-elle observée à Kindu? Non, mais une parenthèse, est-ce qu'on peut baisser sensiblement le volume du poste récepteur qui est dans le studio à côté de vous? Mais voilà, voilà qui est fait, merci. Pouvez-vous nous dire, Gabriel, depuis quand cette situation est observée à Kindu, le fait que les taux du loyer ont augmenté sensiblement?
Oui, Walter, d'après les enquêtes que nous avions effectuées sur place, ces derniers temps, on assiste impuissant à un phénomène social à Kindu. C'est-à-dire, certains locataires de la ville se retrouvent dans la rue avec famille et bagages. Et quand ils ont un peu de chance, ils s'en sortent à coups de menaces, d'injures et parfois d'humiliation de la part de leurs bailleurs, c'est-à-dire propriétaires des maisons. Alors, nous avons rencontré un malheureux locataire qui nous a expliqué son désarroi.
Nous particuliers, n'ayant pas un salaire décent, qui ne répond pas au même, ne répond pas même au tiers du panier ménager, rencontrons des sérieux problèmes avec nos bailleurs. Ces derniers haussent les prix du loyer selon les maires du moment. Croyant que tout le monde travaille à la Monique ou dans une ONG internationale où on paie déjà très bien. C'est un phénomène qui se remarque dès l'arrivée de la Monique. Et si on n'arrive pas à répondre aux soucis du bailleur restant unilatéral, on se verra expulsé de la maison sans délai.
Gabriel, est-ce que vous avez réussi à savoir ce qui est à la base de cette situation?
Oui, Walter, cette situation pourrait s'expliquer de plusieurs manières. Hein. D'abord, faute d'informations suffisantes en matière relative au bail d'immeuble, les propriétaires des maisons majorent unilatéralement et au mépris du droit des locataires les frais de loyer. Ensuite, l'avidité de ces mêmes bailleurs vis-à-vis de l'argent, leur pousse à être à la recherche constante des clients pouvant débourser plus. Et enfin, ils justifient cette majoration par la taxation forfaitaire effectuée par les services des impôts sur leur maison. L'un d'eux nous explique, mais il va parler en swahili.
Si le bailleur tourne pas de chaque bail, il suivait la contribution. Contribution à un appui fixé et n'y a qu'on a tout accès si le bailleur. Qu'il a moins en Afrique, en athée qui prie. Qu'il a moins en Afrique, en athée qui prie. Au moment que tout qu'on a, quand même, il est mis, il m'a pris, qu'on a tout dit. Mais si tu n'as engagé à recette, tout qu'on a pas qu'à couper locateur, tout n'a quand même, il y a, ça n'a pas.
Alors, il dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas lorsqu'on l'entend. C'est presque le service de l'impôt qui est en cause, Gabriel.
Oui, ces bailleurs vraiment a pointé du doigt les services des impôts. Et suite à cette accusation cavalière, nous avons approché ces services et nous avons rencontré les chefs des divisions du bureau de la taxation à la direction provinciale des impôts qui nous a donné quelques explications.
Lorsque le bâtiment ou l'immeuble est occupé par une personne physique commerçant, les locataires commerçants, la personne physique est obligée de retenir, à l'instar de la personne morale, une retenue à la source de 20% chaque fois qu'il verse le loyer au propriétaire. Mais pour la personne physique non commerçant, par exemple un fonctionnaire, le locataire n'est pas tenu à retenir à la source, n'a pas une obligation quelconque vis-à-vis des services de l'impôt à retenir à la source.
Voilà, on vient d'entendre, les bailleurs et les locataires sont en principe liés par un contrat de bail. Celui-ci détermine et garantit les droits des uns et des autres. Pourquoi est-ce qu'alors les bailleurs s'arrogent-ils un tel privilège d'augmenter unilatéralement le prix au mépris de son locataire? Gabriel, une idée là-dessus peut-être?
Vous pouvez directement appeler les, puisque nous avons approché les procureurs de la République à ce sujet, et nous avons aussi approché les chefs des bureaux de l'urbanisme et habitat, qui est d'ailleurs à mes côtés, et comme ils sont spécialistes, l'un en loi et l'autre en matière de loyer, je pense qu'ils peuvent donner de plus amples explications à ce sujet.
Très bien, ça sera à suivre dans quelques instants. Gabriel Ouameya, merci beaucoup et bonne journée à Kindou.
Merci.
Okapi, c'est vous.
Des réactions qui nous arrivent. Une réaction de Nice, en France. Docteur Jean-Pierre Kamoudimba, qui réagit par rapport au sujet de la première heure. Il est en ce moment à Nice et le débat sur la diffamation, il est en train de le suivre. Il félicite le président de l'Union des journalistes congolais, M. Kabé Apindi Passy, pour la force et la justesse de ses propos. Il en est de même pour le juriste, Avocats sans frontières, qui participe à l'émission. Pour sa part, donc, Dr Jean-Pierre Kamoudimba, il estime que ce fameux délit pour diffamation constitue plutôt en RDC un crime de lèse-majesté, dans la mesure où il concerne des personnalités politiques ou autres acteurs influents de la vie socio-économique du pays. Le Congo, poursuit Dr Jean-Pierre Kamoudimba, se veut une république prétendument démocratique. En démocratie, constate-t-il, tous les citoyens sont égaux devant la loi, mais cela ne semble pas être le cas en République démocratique du Congo, où tout individu investi du moindre pouvoir s'affuble des qualificatifs pompeux, genre, je cite, honorable tel, excellence tel, trois points de suspension, comme une manière, il cite, de s'autoproclamer intouchable. Docteur Jean-Pierre Kamoudimba conclut en disant « D'où cette sensibilité excessive de ces personnes vis-à-vis de la moindre critique trop facilement assimilée à la diffamation. » Et puis Jean Toumba qui nous a écrit, il pense que si les choses se présentent alors de cette manière-là, que peut faire un citoyen pour dénoncer un pillage des biens publics, par exemple, sans crainte d'être poursuivi pour diffamation? Fin de citation. La question de nos auditeurs. Merci de le faire. Appelez au 081-890-6890, aussi loin que les ondes peuvent nous porter. Nous retrouverons tout à l'heure nos invités depuis Kindu.
Okapi. En FM, sur Internet, par satellite. Okapi. Okapi, la radio proche de vous. Okapi.
Et voilà, nous allons retrouver tout à l'heure notre invité.
Et c'est un problème qui a double vision ici dans la ville de Kindu. Il s'agit d'abord de l'ignorance de la population, si pas l'orgueil de celle-ci. Le Beaujolais est régi par un ministère qu'on appelle urbanisme et habitat dans les paliers d'habitat. Nous devons régir les beaux aloyers pour essayer de réglementer les différents abus constatés en matière des bails. Pour cette raison, le ministère de l'urbanisme et de l'habitat nous a envoyé des lois et des formulaires unifiés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo qui réglementent, ce document est appelé contrat des bails. C'est dans ces contrats-ci que nous réglementons les différents abus qui sont constatés dans les loyers. Mais pour la ville de Kindu, nous avons suffisamment informé, mais les gens ne veulent pas se mettre en ordre avec notre service.
Mais pourquoi? Pourquoi? Donc,
les gens ne veulent pas parce que, je vous ai dit au début que si ce n'est pas par leur arrogance, c'est par manque d'information ou l'ignorance. Ils ne veulent pas venir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les locataires et les bailleurs sont tous ignorants. Nous ne voyons que quelqu'un qui vient auprès de nous
c'est quand ils ne s'attendent plus, quand il faut lever maintenant les conflits. Mais il fallait commencer par le début. Nous devons d'abord établir un contrat. Dans ce contrat ici, il y a des articles qui protègent les locataires et d'autres qui protègent les bailleurs. C'est là que nous pouvons faire les juges. Comme nous sommes des OPG en matière, nous ne pouvons juger que quand il y a un document juridique que nous devons poursuivre. Parce que ce contrat là-bas, il y a signature du locataire et du bailleur sont présignés par les législateurs que nous sommes au niveau de la ville de Kindu. Quand les locataires et les bailleurs s'attendent à leur niveau, ils ne veulent pas nous voir, on ne sait pas pourquoi. Les uns disent que peut-être qu'on va leur demander des taxes et qu'on sort. Quand ils ont peur d'une histoire que nous n'avons jamais vécue. Parce qu'il fallait d'abord venir pour constater qu'il y a des taxes, il n'y en a pas.
Est-ce que les bailleurs locataires gèrent leurs problèmes, leur entente par un contrat écrit?
Ils ont des contrats, des petits contrats qui n'ont pas tous les articles nécessaires qui pourront faire la garde-fou entre les deux. Il y a des contrats qui n'ont pas tous les articles. Je vais donner un exemple. Dans les contrats de bail, nous fixons les jours de paiement de bail, nous donnons la manière, comment est-ce qu'on va payer, nous fixons les préavis, nous fixons la garantie, nous voyons comment est-ce qu'on peut augmenter les prix et nous avons laissé l'attitude d'un avenant lorsqu'il y a une augmentation des articles parmi les deux contractants. Mais parce que nous ne les gérons pas, nous avons aussi difficile de protéger l'un ou l'autre. Parce que ce n'est pas seulement les locataires qui ont des problèmes, il y a aussi des bailleurs qui ont des problèmes. Dans les problèmes de part et d'autre.
Mais alors, qu'est-ce que vous conseillez? Est-ce que vous allez vulgariser le contrat de bail à Kindu pour éviter ce genre de problèmes ou qu'est-ce que vous allez faire concrètement?
Concrètement, nous avons à les informer tout simplement qu'ils passent à l'hôtel de ville avant de contacter, avant de loger dans la maison d'un individu, passez à l'hôtel de ville pour signer votre contrat. Et les locataires et les bailleurs, tous les deux sont contraints de passer à notre office pour que nous puissions protéger toutes les parties. Loin de cela, nous serons toujours incapables de gérer ce genre de choses qui nous viennent au jour le jour.
À quel prix, M. Mukongo?
Il n'y a pas de prix comme tel. Les locataires et les bailleurs s'attendent pour leur prix. Ils donnent les taux propres de convenance. Les deux parties conviennent leurs taux. Nous n'avons pas de prix à leur donner.
Oui, oui, tout à fait. On est d'accord que c'est le bailleur qui fixe le prix pour son locataire. Mais ce que je demande comme question, c'est lorsque les deux parties viennent auprès de l'hôtel de ville de Kindu pour faire avaliser leur contrat pour qu'il y ait une troisième signature, notamment un fonctionnaire de l'État qui pourrait jouer à l'arbitrage lorsqu'il surviendrait des problèmes. Est-ce que l'intervention de l'hôtel de ville se fait de façon gratuite ou il y a des frais administratifs à payer pour vous?
Bon, il y a des frais administratifs. La nomenclature elle-même est claire à ce sujet. Nous avons, pour, c'est pas moi, une location, on demande 1% du taux mensuel. C'est ça la taxation en question.
Ben voilà, Monsieur Mukongo Amukunga Elias, je rappelle que vous êtes chef de bureau urbain de l'urbanisme et habitat à Kindu. Kindu, c'est le chef-lieu du Maniema, c'est à l'est de la République démocratique du Congo. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et Godé Bokani, merci beaucoup.
En FM, sur Internet. Par satellite, Okapi, la radio proche de vous. Okapi.
Bonjour, Balengela, Banjelune Bassantou, c'est comme ça qu'on dit. Julien, bonjour.
Bonjour Walter, bonjour à tous.
Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs, à qui vous venez de dire bonjour par ailleurs, pourquoi la voirie au niveau de Mbujimayi connaît des problèmes comme ça, un état de délabrement très avancé, c'est l'expression que vous nous avez proposée?
Écoutez, ce qu'il faut dire, c'est que d'après l'ingénieur Marcel Chita, qui est directeur provincial de l'office de voirie et drainage en cycle et OVD, lors de la création de la ville de Mbujimayi, dans les conditions que vous savez, le plan de drainage n'a pas suivi et aussi bien l'assainissement. Et c'est donc la principale raison qu'il faudrait donc noter ici. Ensuite, la deuxième raison, c'est que 85% du sol de la ville de Mbujimayi est sablonné et 15% seulement de l'argile. Tout cela joue dans la dégradation de la voirie urbaine dans la ville de Mbujimaï.
Même si, de l'avis des experts, la voirie n'avait pas suivi à la création de la ville de Mbujimaï, c'est ce que vous nous avez dit, le plan de drainage n'a pas suivi, mais Mbujimaï, c'est une ville qui date de quelques années. Est-ce qu'il n'existe toujours pas de canalisation dans la ville?
En fait, c'est une question essentielle, Walter, si on veut comprendre la situation d'érosion et autres agents dans la ville de Mbujimaï. Et ceci dit, en dehors de ce qu'on appelle ici la ville Miba, il se pose un problème réel d'urbanisation avec l'absence criante de canalisation ou drainage. Et conséquence, lorsqu'il pleut, les eaux de pluie coulent partout, là où c'est possible, pour répondre un peu les pressions du directeur provincial de l'OVD, et les quelques canalisations qui existent ne peuvent pas contenir la quantité d'eau de pluie, avoir la grandeur de la ville avec plus ou moins 2 500 000 habitants, si on en croit donc aux chiffres.
Mais combien de kilomètres, pour avoir une idée de Mbujimaï et pour la donner à nos auditeurs, combien de kilomètres peux-tu évaluer des avenues revêtues de macadam à Mbujimaï?
Walter, au fait, c'est la question que je posais à M. Marcel Chica. Et selon lui, en dehors de la ville Miba, le revêtement des avenues représente à peine 15 km. Il s'agit notamment des avenues Inga, Salongo, Laurent-Désiré Kabila. Et qu'allons-y, si je ne m'abuse pas, ceux qui connaissent bien Mbujimaï savent également que ce n'est pas suffisant. La ville est quand même très très vaste, il faut le dire ici.
Mais et le reste de l'espace de la ville, le reste de la voirie, comment c'est organisé?
Oui, plus de 70 km de route à terre battue, selon le directeur provincial de l'OVD, soit 50 km de route primaire et 20 km de route secondaire. Je pense que c'est l'expression qu'il faudrait utiliser ici. Et je voudrais dire aussi, Walter, que c'est un peu technique, mais pour les communs des mortels, ce sont des axes routiers qui sont principaux et d'autres qui sont bien évidemment secondaires.
Donc on peut voir par exemple les grands boulevards qui sont principaux, les latéraux et les perpendiculaires et tout ça, peut-être. Hein. Si on se trompe, que le technicien des routes nous corrige. Ils peuvent le faire en appelant au 081-890-6890 ou nous envoyer un message à action@radiookapi.net. Je reviens à vous, Julien Niamoni, à mieux comprendre, c'est que la ville de Mbujimaï doit évidemment être rongée par plusieurs têtes d'érosion.
Oui, et sur ce point, Walter, le directeur provincial de l'OVD a fait savoir qu'il faudra que le propriétaire des immeubles, c'est une petite solution, arrête le système d'utiliser des pierres plates dans leurs parcelles. Vous voyez ici, lorsqu'on a un peu de moyens et on fait un peu le lit, on utilise généralement ce qu'il faudrait appeler ici les pierres plates pour embellir, je dirais, les pavements et tout autour de la parcelle. En revanche, il propose un système de gestion d'eau et de pluie avec la végétation comme la pelouse qui absorbe de l'eau ou encore ce qu'on appelle ici le grain anti-érosif, c'est-à-dire un trou qui reçoit l'eau de pluie, mais lorsqu'il y a plein de sable, dans ce trou, vous dégagez ce sable et il semble qu'il y aura moins de dégâts. Monsieur Chica m'a laissé entendre également que ce système avait réussi dans la commune de Kinshasa. Nous sommes à Kinshasa au sud de la ville, pour ceux qui connaissent très bien la capitale du Congo.
Donc on peut estimer que Mbujimaï, la ville, se trouve en danger par rapport à ces érosions, autant de têtes d'érosion que vous avez mentionnées tout à l'heure. Face à ce danger qui est réel, est-ce que l'autorité locale a une réponse ou une proposition de réponse à ça?
Bien sûr, il y a quand même des réponses. Ils ne sont pas restés les autorités les mains croisées ou les bras croisés, comme on dit. Et il y a même quelqu'un qui me disait hier soir que le projet serait même de déplacer la ville peut-être vers le nord pour éviter tout ce qui arrive, parce qu'on a quand même un sol sur le plan topographique qui est quand même assez appréciable par rapport au lieu où se trouve la ville. Mais par rapport justement à votre question, je dirais que les autorités ont mis en place un projet anti-érosif pour drainer certaines avenues de la ville avec le financement du gouvernement. M. Tissa me disait également que c'est un effort considérable. D'autres études qui ont été finalisées attendent maintenant le financement mais il faut souligner tout de suite que le gouvernorat de province finance déjà les travaux de la construction d'un gros collecteur autour de l'aéroport. Vous aviez suivi sur ces mêmes antennes que la route qui reliait Mbujimayi et Kananga avait été interrompue à la suite d'une forte pluie. Heureusement que les autorités se sont mises au travail. Aujourd'hui, le trafic est possible entre les deux villes. Et puis, les travaux de réhabilitation de l'avenue Kalonji par l'office de route, en même temps, son système de drainage par l'OVD ont commencé et progressent normalement. Un financement également du gouvernorat de province. On donne un chiffre important, un peu plus de millions de dollars. Vous comprenez, c'est beaucoup d'argent. Comprenez que la construction de routes a toujours été très chère, comme l'affirme d'ailleurs les spécialistes. C'est donc une longue avenue de près de 3,5 km qui couvre les communes de Dibindi, Dioulou et Mouyam, donc en Mbujimayi. Donc 750 mètres de bitume vient d'être franchi et le drainage va déjà au-delà de 930 mètres de drainage. Donc j'avais fait, certainement je voulais dire Walter, un petit tour de ce côté-là pour mieux voir les choses, comment ça se passe.
Et à ce moment-là, évidemment, on rendra compte, vous nous raconterez ce que vous aurez vu, je veux dire. Julien Amoli, merci beaucoup. Bonne journée en Mbujimayi, Wabalengela, Banjelune Basantu. C'est ce qu'on dit là-bas, non?
Bien sûr.
Allez, à bientôt, Julien.